Cube Radio.
Tom Brady et Gronkowski sont de retour dans leur forme d'antan. Et en plus, Antonio Brown s'ajoute sur la liste des invités du party à Tampa Bay. À Dallas, la saison catastrophique se poursuit, alors que leur quart Andy Dalton se fait littéralement assommer devant ses coéquipiers impassibles. Avec la date limite des échanges qui s'en vient, on se demande qui est vendeur et qui est acheteur dans la NFL. Lamar Jackson aura l'occasion cette semaine de rassurer ses partisans en allant chercher une victoire contre la seule équipe invaincue dans la NFL. Et les Rams sont favoris cette semaine pour remporter le match contre les Dolphins et leur nouveau corps arrière, Tua Tagovailoa. Bonjour à tous, bienvenue à une autre édition de La Zone Payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné et je suis en compagnie de Jean Carrier, ancien entraîneur et analyste des matchs du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut.
Et Stéphane Cadorette, notre expert football au Journal de Québec et de Montréal. Salut Steph.
Salut messieurs, content de vous joindre.
Ben oui, écoute, semaine 8 dans la NFL. On se dit que les prétendants sont en train de fourbir leurs armes. Là, on a vu Antonio Brown cette semaine. Il y a des équipes qui démontrent leur sérieux avant d'entamer le dernier droit, mais il y en a d'autres qui commencent à semer des doutes chez ceux qui les voyaient déjà lever le trophée Vince Lombardi. Jean, quelle est ton histoire cette semaine?
Honnêtement, moi, c'est les Seahawks de Seattle. Tout le monde, avec raison, on les voit loin en série. Ils ont Russell Wilson qui joue du football extraordinaire, probablement. Le MVP, je dirais, à ce stade-ci de la saison, après près de la moitié là, des matchs. Mais la vérité, c'est ceux qui ont regardé les Seahawks jouer depuis le début, il n'y a jamais de match facile. Puis il y a une raison pour ça, c'est que la défensive des Seahawks est horrible présentement. Quand on regarde là, les matchs, le plus petit nombre de points qu'ils ont donné, accordé, c'est contre les Dolphins, c'est 23 points. Et par la suite, ça va tous en haut de ça. Trois reprises, ils ont donné plus de 30 points. On regarde les statistiques aussi défensives, puis c'est pas chic-chic. Là. On parle des, comme j'avais parlé la semaine dernière, la défensive qui donne plus de verges accordées tout simplement à l'adversaire. Ça, c'est énorme. C'est près de 479 par match. C'est beaucoup, beaucoup de verges. Quand je les ai regardés contre Arizona, j'avais choisi Arizona, d'ailleurs, pour remporter la rencontre. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que ce club-là ne peut pas remporter présentement le Super Bowl. Je dis pas qu'ils ne le feront pas, mais s'ils n'apportent pas des améliorations rapidement à leur défensive, la vérité, c'est qu'ils pourront pas jouer trois ou quatre matchs serrés avec Russell Wilson qui joue les héros à chaque match devant une opposition qui est forte en série.
À quel endroit ils sont le plus vulnérables?
C'est la tertiaire présentement, moi je trouve qui est horrible, mais quoi qu'ils donnent beaucoup de verges aussi par le pas juste par la passe, ils donnent beaucoup de verges aussi au niveau là du sol. Donc, écoute, ça va des deux côtés, là, je dirais.
Jean, je sais pas si t'es d'accord, mais en bon français, excusez-moi l'expression, mais le bon vieux pass rush est
exact,
inexistant. C'est inexistant chez les Seahawks.
Et là, je m'en allais. Jed Evan Clowney, le fait qu'il soit parti, il a pas été remplacé. Et s'il y a un club qui doit s'améliorer à la date limite des échanges là-dessus, c'est absolument les Seahawks. Il y a quelques joueurs, je pense, qui peuvent aller chercher. On parle peut-être aussi de Carlos Dunlap avec les Bengals qui a dit qu'il voulait sacrer son camp de Cincinnati. Et personne ne va lui en vouloir, je pense, avec un commentaire comme celui-là. Mais il faut absolument qu'il améliore au niveau des chasseurs de corps. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui mette de la pression de façon constante. Puis on sait que dans un match de série, si tu tires de l'arrière, ben il va falloir que tu sois capable, en mesure de mettre de la pression sur le carrière adverse pour revenir dans le match absolument. Puis présentement,
ça fait des années. Ça fait des années qu'on dit Russell peut pas gagner les matchs à lui tout seul, mais il continue de le faire.
Ben, il le fait. Il le fait sur une base, tu sais, je dirais, sur un échantillon de matchs assez long. Il va t'en gagner assez pour que tu rentres en série. Peut-être même que tu sois champion de division. Mais la vérité, c'est qu'en série, devant une opposition qui est forte, si la défensive joue comme ça, ben ils seront pas capables de se rendre, selon moi, jusqu'au Super Bowl.
OK,
ils
merci.
Ils vont manquer de carburant. Dernier point, si je regarde les Chiefs l'an passé, les Chiefs jouaient de la mauvaise défense jusqu'à ce temps-ci de l'année. Et là, je dirais à peu près à la moitié de l'année, la défensive s'était vraiment améliorée. Puis ils avaient joué du bon football. Ben, c'est la même chose que ça prend là, pour les Seahawks. Il faut commencer à avoir des signes d'amélioration. C'est sûr que Jamal Adams aussi, qui joue pas présentement, ça leur fait mal, mais ils sont pas tout seuls là, qui ont des blessés dans la NFL.
Puis Jean, juste pour finir par contre sur ce point-là, puis tu as entièrement raison, la défensive des Seahawks, il faut apporter des améliorations. Le seul problème, quand tu regardes au niveau de leur cap salarial, selon Spotrac.com, qui tient les statistiques à jour pas mal, là, un bon site pour ça, Spotrac.com, les Seahawks sont 26e là, en termes d'espace, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 4 600 000 de disponibles. Il y a seulement 6 équipes qui ont moins de place qu'eux autres là, sous le plafond salarial. Ça veut dire que oui, tu dois faire un move pour t'améliorer parce que tu as clairement l'équipe pour te rendre loin. Tu dois améliorer ta défensive, mais à quel point tu peux le faire? Puis en faisant quelle sorte d'entourloupette là, sous le cap salarial pour arriver pile au bon montant, c'est à ce niveau-là que c'est moins évident probablement pour eux.
Mais ça, c'est le travail d'un bon directeur général de faire ça. Tout simplement.
Et voilà.
OK. Alors, les gars, je vous pousse un peu pour poursuivre. Mais Stéphane, toi, ton histoire?
Ben écoute, pas le choix de parler d'Antonio Brown avec les Buccaneers. Tu le mentionnais dans ton intro, tu sais, qu'il y a il y a des équipes qui fourbissent leurs armes. Donc, c'est un pas de plus des Buccaneers pour dire, nous, on est all-in, on met carte sur table, on joue gros pour cette année. Comme tel, je comprends l'approche. Tu es à un pas d'amener un championnat à Tampa Bay pour la première fois depuis 2002. Je comprends là, que tu essaies de mettre toutes les ressources possibles et imaginables là-dessus, mais Antonio Brown, moi, je me pose de sérieuses questions sur son état mental. Là. Après les frasques des dernières années, il y a des allégations aussi d'agressions sexuelles qui pèsent sur lui. On sait pas encore ça va être quoi la conclusion dans ce dossier-là. Puis je trouvais que les Buccaneers avaient un bel équilibre actuellement là, au niveau de la répartition chez les receveurs de passes. On a 4 joueurs dans l'équipe qui ont au moins 22 réceptions, au moins 250 verges et au moins 2 touchés. Pis c'est un équilibre qui a été un peu long à bâtir. T'sais, Tom Brady, au début de l'année, il y avait de bons moments, de moins bons moments. La chimie semblait pas nécessairement opérer avec les receveurs. Il y a eu des blessures. Là, les gars reviennent tranquillement. Ils prennent du mieux. Je trouve que je me demande si c'est pas la petite gourmandise de trop là qui va nuire un peu à ce bel équilibre-là qui est en train de se créer. Puis l'autre chose, moi, qui me fait sérieusement tilter, c'est que je vois pas dans cette décision-là une décision de Bruce Arians. C'est supposé être lui le boss à bord. Écoute, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il mentionnait « Antonio Brown, je le connais très bien. C'est pas un bon fit dans notre vestiaire. Ça n'arrivera pas qu'on l'embauche. » Tu sais, ça, c'est mot pour mot. Là. C'est pas des mots tirés à gauche, à droite, en dehors du contexte. Il le dit mot pour mot. C'est pas un bon fit dans ce vestiaire-là.
C'était peut-être du bluff.
Qu'est-ce qui a changé depuis? Tu sais, j'ai peut-être du bluff. Écoute, pourquoi il aurait bluffé en mars, en mai, puis que tout à coup, tu sais, moi, je pense que Tom Brady voulait vraiment être réuni avec Antonio Brown. Il en parlait, là, semble-t-il, déjà dès le début de la saison morte, avant même de savoir où il allait aboutir. Semble-t-il qu'il avait même croisé Antonio Brown lors de la semaine du Super Bowl, et qui lui avait dit « Peu importe où je me ramasse, je t'amène avec moi. Tiens-toi prêt, tiens-toi en forme. » Tu sais, c'est une connexion qui a été très brève en Nouvelle-Angleterre, mais Tom Brady avait été extrêmement frustré de la décision des Patriots de le renvoyer chez lui. C'est comme s'il y a du mauvais sang depuis ce temps-là à l'endroit de l'équipe. Là, il voulait s'assurer qu'il joue avec lui. Écoute, je comprends qu'au final, c'est Arians qui décide du personnel, puis qu'il s'est probablement fait tirer un peu l'oreille par Brady. Mais j'ai hâte de voir. Tu sais, t'as une équipe quand même qui mise sur Mike Evans, Chris Godwin, Scotty Miller, Rob Gronkowski.
Ouais, c'est pas comme si les receveurs c'était une faiblesse là, Tampa Bay.
C'est ça. Puis l'explication d'Arians cette semaine, c'était, écoute, on a eu des blessures depuis le début de l'année. On peut jamais s'assurer que tous ces gars-là soient en santé. Donc, je comprends. Puis le risque au niveau salarial, cela dit, est minime. Donc, point de vue salarial, je comprends très bien le risque. Point de vue profondeur, je peux comprendre le risque, mais j'aime pas qu'on joue avec l'équilibre, avec la chimie d'une équipe qui a le vent dans les voiles, qui s'en va clairement dans la bonne direction. L'attaque commence à cliquer là à tous les endroits sur le terrain. Pour moi, ça, c'est jouer avec le feu. Peut-être inutilement, peut-être, là, quand je parlais de gourmandise, c'est qu'on en veut toujours un peu plus, jusqu'à quel point?
Écoute, mais l'entraîneur Bruce Arians a dit que Tom Brady avait rien à voir dans cette décision.
Ouais, Steph, mais ça, écoute,
tu crois-tu?
Je peux le dire. Moi, je le crois pas personnellement, Jean, je sais pas ce que t'en penses. Moi, personnellement, c'est peut-être le boss. Je dis pas que Tom Brady est rendu qui run l'organisation, mais je pense qu'il a sérieusement imposé sa façon de voir les choses.
Ça s'appelle mettre de l'eau dans son vin. C'est comme ça que ça s'appelle.
Mais il goûte plus le vin.
Tu sais, même au niveau de l'appellation des jeux, c'est pas la même appellation depuis, je dirais, quelques semaines que depuis la semaine 1 et 2. Il y a eu des changements, puis il y a beaucoup plus de concepts que je vois que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre couraient comme jeu, qui ont inclus dans leur cahier de jeu. Je pense que ça a changé un petit peu. Puis ça aussi, je pense que ça s'appelle mettre de l'eau dans son vin. Je pense que Tom Brady, moi, il emmène quand même large. Il est capable d'avoir son mot à dire, puis il a dit « Hey, je suis pas venu ici pour rien, là. On va s'adapter aussi. » Donc, je pense que c'est un mélange de quelques petites choses, mais il n'y a aucun doute que Bruce Arians n'est pas seul qui mène la barque à Tampa Bay.
Il y a plusieurs mains sur le gouvernail. OK, les gars, on garde ça en tête, puis on se reparle après la pause. Notre match commence après la pause avec nos trois essais. On va parler, entre autres, des Cowboys qui ont vu leur carrière mourir sur le terrain.